Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
La mission évangélique Vase d'honneur a le plaisir de vous présenter le message du pasteur Mohamed Sanogo, premier responsable de l'église. Nous vous souhaitons un agréable moment à l'écoute de la parole.
Amen. Si vous voulez connaître votre mission, si vous voulez être efficace dans votre propre mission à vous, il faut servir dans la mission d'autrui. Ça fait partie de ce dont je vais parler en ce qui concerne la fidélité. C'est très important. C'est-à-dire, tu ne reçois pas exactement la spécificité de ton appel. Tu peux avoir ton appel de manière floue dans ton esprit. Mais tu ne reçois pas la spécificité de ton appel avant que tu n'aies toi-même servi dans l'appel d'une autre personne. C'est ainsi que je vous ai donné l'exemple de Joseph. Dieu lui a montré sa mission en songe. Alléluia. Dieu lui a montré sa mission en songe, mais pour accéder à cette mission, il devait être lui-même, Dieu lui a montré le but de sa vie en songe, mais pour pouvoir y accéder, il devait lui-même travailler à amener la maison de Potiphar. Il devait travailler dans la vision de Potiphar. Et il a travaillé fidèlement dans la maison de Potiphar. Il a amené la maison de Potiphar au sommet. Après cela, il est parti dans la prison. Il a aidé le chef de la prison à gérer les prisonniers. Il a amené la vision du chef de la prison à la réussite. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi que de la prison, Dieu l'a élevé et Dieu l'a amené au sommet. David a reçu la vision qu'il était appelé à être roi. Samuel, le prophète qui avait prié pour Saül, pour le roi, a le même prophète qui est venu oindre David pour roi. Lorsque David a reçu cela, il est rentré au service de Saül, un homme méchant. Et David a mené les guerres de Saül. Goliath n'était pas un adversaire de David. Goliath était un adversaire de Saül. Goliath n'avait pas affaire à David. Goliath était en guerre contre Israël. Et David était le petit berger qui s'approchait. Ce n'était pas son combat. Mais David a mené le combat de Saül. Il a relevé le visage du patron, du maître. Il a servi fidèlement Saül. C'est ainsi que lui, David, il est rentré dans la prophétie qu'il avait reçue de Samuel. Il est impossible que vous atteigniez votre destinée sans servir quelqu'un d'autre. Si vous n'êtes pas fidèle, dit l'Écriture, à ce qui appartient à autrui, vous ne pouvez pas avoir ce qui est à vous. Une des grandes choses qui fait que la majorité des chrétiens n'atteignent pas et n'entrent pas dans leur destinée, c'est la notion de fidélité. Tout le monde refuse d'être fidèle à autrui parce qu'on estime être soi-même trop ouin, trop bien sage et plus intelligent que celui qui est là. Quelquefois on s'estime plus compétent, quand il dit plus sage, plus compétent que notre patron. Mais si c'est lui qui est établi sur toi comme responsable hiérarchique, tu dois travailler pour le succès de sa propre mission avant que Dieu ne te donne toi-même ta propre mission. Si tu le combats parce que tu estimes que tu es plus intelligent que lui, toi, tu n'entreras jamais dans ton destin. Jusqu'à ce que tu ne te répondes et que tu ne saisisses cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit en parlant même de Jésus-Christ de Nazareth. Un jour, les hommes, je n'ai pas noté la référence, mais les hommes sont venus voir Jésus, ils sont partis voir Jean-Baptiste. On a dit ceci à Jean-Baptiste. On dit Jean-Baptiste, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain est en train de baptiser. Ça veut dire quoi? Que Jésus-Christ lui-même, il a accompagné Jean-Baptiste. Il était, la Bible dit, ce passage, tu peux me donner le passage. Il a dit de Jésus, il a dit à Jean-Baptiste, celui qui était avec toi. Est-ce que vous savez que donc Jésus a donc servi Jean-Baptiste. Et Jésus a dit ceci, quand Jean-Baptiste ne le connaissait peut-être pas vraiment. Quelquefois, vous servez des personnes qui vous ignorent. Mais vous travaillez pour atteindre le but. Et un jour, donc, l'Esprit de Dieu vient témoigner à Jean-Baptiste que ce jeune homme qui vient tout le temps assister à tes programmes, c'est le Messie. Alors, quand Jean-Baptiste arrive, Jésus arrive au baptême de Jean. Jean dit, quoi? Parce que la Bible dit quoi? Les Écritures disent quoi? C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Ou c'est le supérieur, et celui qui est grand, qui bénit le plus petit. Baptiser là, c'est comme bénir une personne. Jean voit Dieu qui arrive. Jean dit, ah, moi-même je suis déjà baptisé, hein, mais si toi tu viens là, rebaptise-moi. Jésus, Jean dit à Jésus, tu ne peux pas, c'est moi qui dois être baptisé. Jésus lui dit, non. On doit faire ce qui est convenable. Si vous n'avez pas été fidèle sous la main de quelqu'un, même si vous êtes plus intelligent, plus compétent que cette personne, vous ne pouvez pas entrer dans votre ministère sans le baptême de Jean. Jésus n'aurait pas commencé le ministère. Il y a toujours une personne qui a plané le chemin devant vous. Mais cette personne qui a plané le chemin pour vous, vous devez la servir pour pouvoir découvrir le chemin qu'elle a préparé pour vous. Le patron qui est sur toi, qui est si compliqué là, en réalité, il est venu aplanir ton sentier. Il est un Jean-Baptiste pour toi. Mais tu ne peux voir ton chemin que si tu le sers. Sans Potiphar, il n'y aurait pas eu Joseph au palais. Vous me suivez? Sans Madame Potiphar, Joseph ne serait pas allé en prison. Joseph a même été fidèle à Madame Potiphar. Malgré qu'elle était bizarre. Quelqu'un est-il avec moi? Écoutez, mon frère, la majorité d'entre vous, vous n'entrez pas dans votre destin parce que vous refusez la fidélité. Vous refusez de servir autrui. Ou même si vous êtes là, en fait, vous vous servez d'autrui pour vous-même. Dieu m'a demandé de commencer l'enseignement sur les vertus par la fidélité. Je ne comprenais pas pourquoi. Je dis, Seigneur, logiquement, je dois commencer par l'amour. Il dit, mais tu sais, mon fils, que pour comprendre même le commandement de l'amour, il faut d'abord que la personne ait accepté de me suivre. M'être fidèle. C'est parce que tu as besoin de m'être fidèle que je lui dis, aime ton prochain Pierre, décide d'aimer. Si tu n'es pas mon fidèle, est-ce que je peux te parler? C'est pourquoi la Bible appelle les croyants les fidèles. On a un autre nom, ça s'appelle les fidèles. La Bible dit que nous sommes sauvés par la foi. C'est pas vrai? Dans le mot, en anglais, le mot fidélité est très fort. Comment on dit en anglais? Ça veut dire quoi littéralement? Ça veut dire, non, vous comprenez. Où vous avez fait vos cours d'anglais? Comment est-ce qu'on dit fidélité en anglais? Tout le monde doit répondre. Il y en a qui dit faithfulness. Ok. Et ça signifie quoi littéralement? Ça veut dire plein de foi. Donc, la fidélité, ça signifie rempli de foi. La fidélité est plus grande. La fidélité est le début même de la foi. Alléluia. C'est-à-dire, sans fidélité, il n'y a pas de foi. En anglais, ils disent non. Il y a la foi et puis il y a la fidélité. Eux disent faith pour foi. Et pour parler de fidélité, c'est rempli plein de foi. Plénitude de la foi. C'est ça. Faithfulness. En anglais. Il y a la foi. Il y a beaucoup d'hommes qui ont la foi. Mais ça va que, en fait, être fidèle, c'est une grande foi. Et c'est parce qu'on est fidèle, parce qu'on a une foi qui est grande, qu'on déplace des montagnes dans notre vie. Il y aura des montagnes sur votre vie. Si la foi simple, la Bible dit qu'il faut qu'elle soit grande, il faut qu'elle soit forte pour déplacer quelques obstacles, n'est-ce pas? Mais sa grandeur est fonction de la fidélité. Dis avec moi fidélité. Fidélité. Alléluia. Alléluia. Voilà, le passage dont je parlais, c'est Jean chapitre 3, le verset 26, où il est dit que donc, il est dit, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain. Donc, Jean, Jésus-Christ était avec Jean. Moïse, il avait reçu l'appel de délivrer Israël de l'esclavage égyptien. Quand vous lisez Actes des Apôtres, il est dit cela, que Moïse avait reçu de Dieu qu'il avait été choisi pour que Israël soit libéré de l'Égypte. Vous savez ça? Il a voulu commencer sa fidélité. Parce que jusqu'à présent, tout le monde le servait, lui Moïse. Il était le prince d'Égypte. Il vient, il prend des ordres. Il dit, je vais me servir de mon pouvoir pour délivrer ce peuple. On a failli le tuer. Il a fui. Et vous savez ce qu'il est devenu? Il est devenu berger assistant de Jéthro. S'occuper des brebis de Jéthro. Là, il a été fidèle. Et comment Dieu a vérifié sa fidélité? Dieu a vu jusqu'où est allée la fidélité de Moïse. Il a fait en sorte que une brebis de Jéthro se perde dans un endroit difficile à atteindre. Un homme qui n'est pas fidèle ne va pas aller chercher la brebis. Il va dire, là où est la brebis, je ne pouvais pas la prendre. Ils trouvent toujours des excuses. Les hommes qui ne sont pas fidèles trouvent toujours des excuses. Ce qui importe pour eux, c'est leur santé, c'est leur force. Les hommes fidèles, ce qui importe pour eux, ce n'est pas leur vie. C'est que toi, le maître, tu atteignes ton but. Et qu'est-ce que Jéthro veut? Il veut ses brebis. Je donne ma vie pour les brebis de Jéthro. Et Dieu a éprouvé Moïse comme ça. Il a fait monter la brebis dans un endroit inaccessible pour tester la fidélité de Moïse. Fidélité à qui? Pas à Dieu. À Jéthro. Non, tout le monde a envie d'être fidèle à Dieu. Fidèle à Dieu, là, c'est facile. Fidèle à Dieu? Qui est fidèle à Dieu? Moi. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas être fidèle à Dieu si vous n'êtes pas fidèle aux hommes et aux autorités qu'il établit sur vous. Dieu, vous ne le voyez pas. Vous pouvez vous-même interpréter comme vous voulez votre propre fidélité avec Dieu. Parce qu'il est calme, il ne parle pas beaucoup. Donc, tu ne sais même pas savoir. Tu ne viens pas à l'église, tu dis, je suis fidèle. On dit pourquoi? Tu dis, Dieu m'a dit hier de ne pas venir. Qui est là? Dieu dit, mon fils, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Comment tu peux reconnaître ma voix? Je ne te donnerai pas ce qui est à toi si tu n'as pas été fidèle à ce qui appartient à autrui, disent les Écritures. Et le autrui, ce n'est pas Dieu, c'est quelqu'un. On va lire cela dans la parole. La majorité des chrétiens, mes amis, on est assis ici, on prie, vous faites des boulots excellents, vous faites des offrandes, vous êtes des gens bien. Mais vraiment bien, irréprochables. À part certains, malheureusement. Mais la majorité, bien de bons chrétiens, la bonne Bible, bonne prière. Il aime Jésus, adorateur. Rit pas de problème. Viens tous les dimanches au culte. Mardi des champions, jamais manqué. Depuis que ça existe. À la mission, toujours présent. On peut être partout à la fois, sans être fidèle. On va avoir cela. Aaron et Myriam, Dieu les a choisis pour être collaborateurs de Moïse. Mais ils n'étaient pas fidèles. Ils étaient leurs propres patrons. Un jour, ils se sont rebellés contre Moïse. Et elle va dire en Nombre chapitre 12, elle dit, mais Moïse, pourquoi il est parti prendre la femme cananéenne là? La femme éthiopienne, pardon. Pourquoi est-ce qu'il est parti prendre la femme éthiopienne? Et il a dit, Dieu parle à Moïse comme il nous parle à nous. Elle était la grande sœur de Moïse. Aaron était le grand frère de Moïse. Dieu les avait appelés eux trois ensemble. Donc c'était des collaborateurs. Mais entre des personnes compétentes de même valeur, Dieu agit, il faut une hiérarchie. Donc c'est lui qui est le patron. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire, l'œuvre est là, nous sommes tous un, mais le Seigneur a choisi tel pour le mettre responsable. On va respecter cela. Mais on est des collaborateurs. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ils ont voulu être des simples collaborateurs. Dieu les a frappés des lèpre. On dit quel collaborateur? Servez Moïse. Soyez fidèles. Amen, amen, amen. Amen. Le manque, l'infidélité est une des grandes causes de la dérive de nos églises aujourd'hui. Infidélité vis-à-vis de Dieu. Mais cette infidélité-là se manifeste par l'infidélité vis-à-vis de personne. Mes amis, péché, le mot péché dans son sens étymologique signifie rater le but. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas en train d'accomplir son destin est en train de pécher. Même s'il fait de bonnes choses dans la vie, Péché, c'est d'abord l'iniquité. Voler, mentir, tricher, insulter, tout ça là, c'est péché. Mais en dehors de cela, péché, c'est quand tu n'es pas là où tu dois être. Même si l'endroit où tu te trouves n'est pas mauvais. Or, comment les gens ratent le but de leur vie? À cause de l'infidélité. La plupart des personnes et des hommes, pour une raison ou pour une autre, tout le monde accepte l'amour, tout le monde accepte la patience, mais la plupart rejettent dans leur cœur le principe même de la fidélité. Or, c'est la fidélité qui crée le discipulat. La Bible dit ceci, Dieu a dit ceci, faites de toutes les nations des disciples. Un disciple, c'est celui qui suit fidèlement un maître. Donc, le disciple, c'est un fidèle. Mais nous refusons d'être fidèles. En refusant d'être fidèles à Dieu, en fait, nous ne sommes pas fidèles à Dieu quand nous refusons d'être fidèles aux autorités qu'il a établies. Ah, on va voir qu'il y a différentes formes d'infidélité là. Oh Dieu, que Dieu nous aide. Amen. Alors, si je peux intituler cet enseignement, je peux dire donc la fidélité, le chemin vers votre destin. La fidélité, c'est le chemin vers votre destin. Quand Dieu a ouvert mes yeux pour comprendre la fidélité, j'ai compris dans mon cœur pourquoi beaucoup de personnes excellentes, bien des grands prédicateurs, des personnes loin de Dieu, n'atteignaient pas le but. Des personnes, lorsque vous les regardez, vous dites, waouh, des gens pleins de potentialité. Quand vous regardez les dons spirituels, les capacités, le talent que Dieu a déposé en eux, extraordinaire. Mais ils ont un problème qui va tuer leur don en eux. Ils n'acceptent pas d'être soumis. Alléluia. Dieu recherche, je me suis rendu compte de la parole de Dieu, que Dieu recherche avant tout des hommes fidèles. Parce qu'il sait que s'il a quelqu'un de fidèle, la personne ne va pas vivre la sainteté. Quand la personne est fidèle, dès qu'elle entend que le maître dit « je ne veux pas ceci », elle s'y range. Quand quelqu'un est infidèle, quelqu'un qui est infidèle, même vis-à-vis de Dieu, c'est une personne qui très souvent est conduite par ses émotions. Elle décide, parce que la fidélité tue et vous apprend à discipliner vos émotions. Mais les hommes veulent se laisser conduire par leurs propres émotions. Le patron dit, je te veux ici. Oh, ça ne m'arrange pas d'être là. Ce matin, je me suis levé, j'étais mal à l'aise. La plupart des personnes, en fait, lorsqu'elles obéissent, elles ne sont pas fidèles à ce qui appartient à autrui et aux autres. Elles sont fidèles à l'argent que les gens vont leur donner. C'est-à-dire que quand le patron dit, je te veux à 23h, ils sont là à 23h. Ce n'est pas au patron, ils sont fidèles. Hein. C'est à l'argent, au salaire de la fin du mois qui sont fidèles. Mais sinon, le patron, il ne faut pas qu'il les paye. C'est là qu'il va se rendre compte qui ils sont. Quand ils sont là comme ça, oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Le monsieur qui dit avec tant de sérieux, d'humilité, là, ce n'est pas au patron qui dit ça. C'est à l'argent que le patron détient. Si le patron n'a pas payé, mais toi là-même, tu penses que quoi? Tu crois qu'on travaille ici pour tes beaux yeux? Paye l'argent, on va partir là. Demain, je t'émissionne. Donc, qui on respecte? C'est pas l'homme. C'est la raison pour laquelle la majorité même des inconvertis n'entrent pas dans leur destin. La fidélité. La fidélité. Oh, quelqu'un me dit, la Bible, Jésus a dit ceci. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et aimer maman. Et il dit cette phrase. Vous ne pouvez pas vous attacher à Dieu. La fidélité, ça parle. Fidélité, ça se définit comme étant un attachement. Il dit, tu ne peux pas être attaché à Dieu et être attaché à maman. Maman, c'est le Dieu de l'argent. Maman, quand on parle de maman, ça veut dire argent. Si vous êtes fidèle de maman, vous pouvez être caché longtemps. On ne va pas vous découvrir. Parce que tant que maman est là, on a l'impression que vous êtes un ange. Le jour où maman ne sera plus là, l'argent ne sera plus là. On découvrira que vous n'êtes pas fidèle à la personne. Vous étiez fidèle en fait à maman.
Beaucoup de personnes ratent leur, manquent leur destin. Parce qu'ils sont fidèles à maman. Oh, Jésus a dit ceci. Tu ne peux pas t'attacher à l'argent et t'attacher à Dieu. Ça veut dire, tu ne peux pas être fidèle à maman, à l'argent, et être en même temps fidèle à ton Créateur. L'argent est une autre divinité. Si j'ai en train de dire de ne pas avoir de l'argent, si. Quand vous servez Dieu, Dieu met l'argent à votre disposition. Mais si vous servez l'argent, un jour, vous allez découvrir que vous n'appartenez pas à Dieu. Judas, vous savez pourquoi Judas était infidèle? Il était fidèle à l'argent. Il gardait la caisse. Tant que la caisse était là, Jésus. Jésus. Pourquoi Judas a trahi Jésus? Parce qu'il était fidèle à l'argent. Quand il a vu la pécheresse venir avec le parfum, qu'elle a cassé, versé le parfum, il a vu les liasses, 300 deniers. En même temps, il s'est écrit, c'est quoi cette affaire? On aurait pu vendre ce parfum au moins à 300 deniers. Est-ce que Jésus sait ce qui vient de partir là? Parce que pour lui, servir Dieu avec autant de moyens, c'est du gaspillage. Quand vous êtes infidèle, si quelqu'un vient, vous n'êtes pas fidèle à un homme. Si la personne est bénie, ça vous fait mal. Ça veut dire que vous êtes fidèle à l'argent. Ce sont les symptômes que je vais décrire. Vous savez ça? Ton patron vient, il achète sa prochaine Porsche. Ça te fait mal. Parce que celui qui est fidèle recherche le bonheur de l'autre, de son patron. Celui qui est fidèle à l'argent, il va dire, ah bon? Il a les moyens de s'acheter cette Mercedes-là et puis il n'augmente pas mon salaire. Donc tu vois que tu n'es pas fidèle. Tu es fidèle à l'argent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que... Pourquoi je dis ces choses? Mais mes amis, ça peut nous faire mal dans le cœur. Mais ne faut-il pas que Dieu ouvre nos yeux pour comprendre les choses qui ne vont pas dans notre vie? Quand tu fais l'effort d'avoir une vie de sanctification, quand tu fais l'effort de fuir toute forme de péché et que ta vie n'est pas en train d'avancer, c'est dû à quoi? Parce que le problème de la fidélité ou de l'infidélité, ce n'est pas un péché qui est manifeste. C'est juste une attitude de cœur vis-à-vis d'une autre personne. Personne ne voit ça. C'est quelque chose qui se passe dans le cœur. Là, je suis en train de parler de maman. Mais tant que, si je ne vous détaille pas comme ça, même celui qui sert maman, il va penser qu'il est fidèle aussi. Or, il n'est pas fidèle. Aaron et puis Marie, Myriam, et ils pensaient qu'ils étaient des fidèles, mais ils n'étaient pas fidèles. Lorsque, comment ça qu'on n'est pas fidèles? Lorsque Moïse a fait quelque chose qu'il n'appréciait pas, leur manière de parler démontrait qu'il n'était pas fidèle. Infidèle, même quand le patron même fait l'erreur, il a une manière de lui parler. Un infidèle, lorsque le patron fait une erreur, il parle avec mépris. Pourquoi? Avec colère dans le cœur. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qu'il cherche. Oh, peut-être que maman, ce n'est pas peut-être les liasses de billets, de CFA, d'euros, de dollars. Ça peut être un salaire différent que tu recherches. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a eu de grands hommes qui ont marché avec les hommes de Dieu et qui étaient des gens bien sur le plan comportemental. Mais ils ne sont pas rentrés dans leur héritage. À cause de l'infidélité. Donc vous avez Myriam. Marie, là, c'était une prophétesse. La sœur de Myriam, la sœur de Moïse. On va lire tout ça rapidement, j'avance. 2 Timothée chapitre 2, verset 2 dit ceci. Bon. Et ce que tu as entendu en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Je me suis rendu compte que Dieu, pour établir des hommes de Dieu, il ne regardait pas ici le critère de est-ce qu'ils savent prêcher, est-ce qu'ils ont l'onction. Il dit, choisis des hommes fidèles, pas choisis des personnes ouin. Pas choisis de bons prédicateurs. J'ai vu que le critère de choix de Dieu, ce n'était pas la compétence, mais c'était la fidélité. C'est partout dans les Écritures. Je dis, pourquoi? Mes amis, et je profite maintenant pour vous dire dans vos entreprises, si vous cherchez un adjoint, quelqu'un pour travailler avec vous, s'il vous plaît, ne cherchez pas d'abord la compétence. L'erreur de ta boîte qui fait que ta boîte n'est pas en train de progresser et que tu n'avances pas, c'est parce que tu cherches des compétents. Il faut chercher des fidèles. Ce que je vais dire, c'est vrai pour toi vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ton pasteur, vis-à-vis de tes responsables,
Mec, si tu comprends le principe de fidélité, tu vas commencer à l'appliquer avec les personnes avec lesquelles tu travailles. Car si toi-même, tu n'es pas soumis au tri, aucune personne ne pourrait être soumise à toi. Tu vas avoir des traîtres en ton sein à gogo. De toute façon, il y a tout le temps des traîtres. Mais il faut au moins un traître sur 12. Mais toi, tu as 12 traîtres et 11 traîtres sur 12. C'est-à-dire qu'il y a un seul qui est sérieux. Les autres, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire que dans ta boîte, là, tout le monde te combat. Tout le monde, tu te poses la question, tout le monde te combat dans ta propre entreprise. Tu prends des servantes chez toi à la maison, elles ne te sont pas fidèles. Et tu te poses la question, comment? Tu dis à Abidjan ici, mais on trouve même plus les bonnes nounous. Toi-même, est-ce que tu es une bonne nounou? Dans ton bureau, tu travailles là-bas comme secrétaire, mais tu travailles pour toi-même. Et tu attends à ce que Dieu déploie une onction pour attirer vers toi la fille des rêves qui va venir, qui va comprendre tous tes désirs dans la maison. Quand tu vas lui dire, va à droite, elle va à droite. Va à gauche, elle va à gauche. Elle comprend ta vision. Elle comprend tes besoins. Avant même que tu aies parlé, toutes les femmes cherchent des nounous comme ça. Mais j'ai vu que la plupart, elles échouent toujours. Parce que toujours, je les entends. Moi, je suis marié, donc je vois ma femme. Toutes les femmes l'appellent. Tu n'as pas trouvé quelqu'un? Je dis, mais ah, d'où vient cela? Il dit, mais l'infidélité crée la rébellion autour des gens. Ce que tu fais à autrui, les gens font ça. C'est-à-dire que la fille, elle vient travailler juste pour ce que tu as lui donné à la fin du mois. D'ailleurs, même ta maison ne l'intéresse pas. Ça te fait mal que ta maison. Mais pourquoi tu as laissé cet endroit-là sale comme ça? Je ne t'ai pas dit 1000 fois. Elle ne peut pas comprendre. Ça ne peut pas rentrer. Parce que toi-même, tu n'es pas fidèle. Quelle onction dégages-tu? Tu attires vers toi des infidèles. Comment on dit là? Ceux qui se ressemblent font quoi? Il y a un aimant d'infidélité dans ta vie. Tu attires. Non. Tu attires. Ah, mais tu demandes comment? Mais tu arrives à l'église. Tu es un indépendant dans l'église. C'est-à-dire que les infidèles, ce ne sont pas des gens qui sont forcément mauvais. Non. Tu arrives dans l'église. Ce sont ce qu'on appelle des indépendants. Je vais parler de l'indépendant. L'indépendant, c'est une forme d'infidélité. Il n'est pas contre toi. Il ne va jamais quitter l'église. Il est toujours là. Mais il a son propre programme. Dans l'église, là, l'église a son programme. Lui, il a son programme à lui. Si son programme coïncide avec le programme du pasteur, on y va. Si ça ne coïncide pas, je m'excuse, pasteur, je ne serai pas à ton programme. C'est une forme d'infidélité. C'est de l'infidélité. Car ce qui t'intéresse, ce n'est pas la vision d'autrui, c'est ta vision à toi. Tu es un infidèle et les portes ne s'ouvrent pas devant toi. Tu ne comprends pas pourquoi. Les indépendants, vous avez un indépendant dans la Bible, Joab. Vous connaissez Joab? Joab, c'était le chef d'état-major du grand roi David, un infidèle. Mais Joab est resté, il s'est battu pour David depuis que David a quitté Saül. C'était l'homme qui est resté dans l'armée de David jusqu'au bout. Quand David est mort, quand David allait partir, il a dit à Salomon, Joab là, il faut le tuer. On va lire cela. Quand la Bible cite les vaillants héros de David, on ne cite pas Joab. Et je ne comprenais pas pourquoi, ça m'a fait mal. Je dis, mais un grand Joab, c'est Joab qui a dirigé toutes les grandes batailles de David. Il s'est battu. Quand ils étaient 400, Joab était là. Joab a tout le temps été avec David, mais il était infidèle. Pourtant, ça ressemble à la fidélité, frère. Mais ce n'est pas la fidélité. En fait, il avait une forme d'infidélité, c'est l'indépendance. Il avait son propre programme auprès de David. Un jour, David reçoit un homme qu'on appelle Abner. Abner était le chef d'état-major. Vous savez, quand David est devenu roi, il y a une partie du royaume qui s'est divisée en deux. Il y a une partie qui est partie avec le fils de Saül, Ish-Bosheth. Et le chef d'état-major de Ish-Bosheth, fils de Saül, s'appelait Abner. Ils ont livré une guerre très longue. Et un jour, Abner est venu dire à David, il faut qu'on fasse la paix. Je suis venu faire la paix. Mais Abner s'était tellement battu contre Israël. Et il avait donc fait du mal à Joab. Abner a tué le frère de Joab. Pendant la guerre, pendant qu'ils étaient en guerre, Joab, le chef d'état-major, avait son petit frère, Azaël. Azaël a été tué par Abner en guerre. Et d'ailleurs, même dans la propre guerre, dans cette guerre-là, Abner avait dit à Azaël, ne me suis pas, il faut me laisser, parce que si je te tue, là, ton frère va m'en vouloir. Azaël dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Toi, Abner, on va se battre. Donc, Abner l'a tué parce qu'il était plus fort. Joab n'a pas pardonné. Quand David a reçu Abner pour faire la paix avec Abner, il a dit on va faire la paix. David a reçu Abner, il a honoré Abner. Mais Joab a trouvé que ce que David faisait n'était pas bien. Quand Abner est parti, Joab est parti le retrouver, Joab l'a tué. Vous comprenez? Il n'était pas fidèle à la vision de David. Il travaillait comme chef d'état-major, sous-directeur, premier ministre de David. Mais il avait son propre programme, sa propre manière de voir le monde. Il a tué Abner. Or, le roi ne voulait pas qu'il tue Abner. Le roi voulait honorer Abner. Même si ça te fait mal, la fidélité, c'est comme ça. Plus tard, le roi va dire, je ne veux pas qu'on tue Absalom. Quand Absalom, le fils de David, s'est levé contre son propre père, Joab va aller le tuer. Mais quand vous regardez l'histoire, Joab avait raison. Vous comprenez, non? Parce que Absalom, là, c'est le fils de David. Absalom s'est rebellé contre son propre père. Il a décidé de tuer son papa. David a fui. Il a quitté le royaume. Absalom a pris le pouvoir. Il a fait un coup d'état. David avait plusieurs concubines, des femmes de second rang. Absalom, son propre fils, est parti coucher avec ses belles-mères pour humilier David. Absalom a pris une armée. Il dit, on va, parce que David est affaibli, on va aller là-bas, on va le tuer. Et Absalom, vous savez, quelqu'un qui est dangereux comme Absalom, il faut l'éliminer. Même si tu le gardes, David, demain, il va te trahir encore. Donc, ce que Joab a fait, là, militairement, parce que quand Absalom est parti maintenant mener la bataille contre David. David, c'est un grand guerrier. Il a organisé son armée avec Joab en tête. Et ils ont renversé la situation. Ils sont des soldats expérimentés. Renverser la situation, massacrer l'armée d'Absalom qui venait contre David. Et maintenant, Absalom a commencé à fuir. Absalom s'est bloqué les cheveux dans des arbres. Il y a un soldat qui l'a vu. Il est parti dire à Joab, voilà Absalom ici, il est bloqué, il est coincé. Joab dit, mais pourquoi tu ne l'as pas tué? Le soldat a dit, quoi? Tu penses qu'on n'a pas entendu ce que le roi t'a dit? Il a dit, ne touche pas à l'enfant. Il a fait jurer Joab, ne touche pas à l'enfant. Et puis Joab demande au soldat là, qui l'a vu, il dit, toi, pourquoi tu ne l'as pas tué? En quelque sorte, quelquefois le roi même, il ne sait même pas comment il faut diriger. Un gars comme ça, il faut l'éliminer. Joab est parti lui-même, il l'a tué. David a commencé à pleurer. Mais il n'a pas été fidèle à la vision du maître. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es comme ça, fais comme ça. Alléluia. Alors disons, donc, Dieu recherche la fidélité. Quand vous lisez Actes chapitre 1, à partir du verset 21, il est dit, lorsqu'on devait choisir le remplaçant de Judas, on a dit, choisissez un homme qui nous ait suivi depuis le début. La fidélité était le critère essentiel. En fait, plusieurs passages de la parole le montrent. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2, dit ceci. Du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, et vous êtes des dispensateurs, frères. Vous êtes des dispensateurs de la vie divine que Dieu a déposée en vous. Vous êtes des dispensateurs, vous devez dispenser des soins de santé, des hôpitaux que vous allez bâtir, des écoles que vous allez mettre en place. Vous devez dispenser la vérité lorsque vous allez des députés, des maires, répandre la lumière de Dieu au travers de vous, partout. Vous êtes des dispensateurs de la parole de Dieu. Mais ce que Dieu vous demande, c'est d'être fidèle. Tu es un dispensateur. Ça veut dire quelqu'un qui donne, quelqu'un qui influence les autres. Ce que Dieu demande aux hommes et aux femmes d'influence, selon 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2, c'est la fidélité. Parce que la fidélité va englober tous les autres commandements. C'est parce que tu es fidèle, tu vas accepter l'amour. C'est parce que tu es fidèle, tu vas accepter. Mais non seulement tu vas accepter les commandements, mais tu vas accepter la vision. Les fidèles marchent dans la sainteté ou dans la crainte de Dieu lorsqu'ils estiment que cela est bon pour eux. Quelqu'un qui est infidèle, s'il estime que vraiment lui, il a trop de problèmes avec l'impudicité, il va respecter les autres commandements. Mais l'impudicité, là, il va être infidèle dedans. Vous voyez? Parce qu'en fait, il marche selon ses propres émotions. C'est son propre programme. Il obéit à ce qui lui semble juste. Et à ce pourquoi il a la force. Quand il n'a pas la force de faire quelque chose, il n'obéit pas. Ça, c'est la fidélité vis-à-vis de Dieu. Dieu dit à quelqu'un, ne te mets pas en colère. Mais tous les matins, avant le soir, il faut que tu cries sur des personnes. Il faut que tu sois en colère. C'est une infidélité. Tu as la force pour obéir aux commandements qui te semblent les plus aisés. En bas de la colère, oh, tu sais, dans la vie, il faut dire la vérité aux gens. De temps en temps, il faut leur parler. Mais mon ami, qui est le maître dans l'affaire? Lui dit, je ne veux pas que tu te mettes en colère. Toi, tu excuses la colère. Tu n'es pas fidèle.
Alléluia. Tout à l'heure, je vous parlais de Marie, de Aaron, Miriam. Juste un passage qui en parle. Michée chapitre 6, verset 4. Il est dit, car, en parlant d'Israël, je t'ai fait monter du pays d'Égypte et je t'ai délivré de la maison de servitude et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie ou Myriam. Ça veut dire, Dieu les avait envoyés ensemble pour revenir. Mais Moïse, il devait être fidèle à Moïse. Amen. C'est dans Exode chapitre 15, verset 20 qu'on voit que Myriam ou bien Marie était prophétesse. Et en Nombre chapitre 12, elle s'est rébellée contre Moïse malgré le fait qu'elle était appelée par Dieu. Elle n'a pas pu être fidèle parce que peut-être c'était son petit frère. N'oubliez pas que c'est cette Myriam-là qui a pris Jésus dans son... C'est comme son fils, qui a pris Moïse, pardon, qui l'a mis, hein, qui l'a gardé, qui l'a pouponné, qui l'a fait partir chez le... Hein, qui l'a mis dans le panier. C'est sa maman. Mais après, on dit, non, il faut être fidèle à ton petit... C'est ton fils, quoi. Mais c'est lui Dieu a choisi. Jésus a dit à Jean-Baptiste, il faut qu'on fasse ce qui est convenable. Il y a des personnes qui refusent ce qui est convenable pour diverses raisons. Ça les rend, ça dit, ils travaillent avec toi, mais ils sont indépendants, ils ont leur propre programme. C'était le cas de Marie, de Myriam et de Aaron. C'est pourquoi quand les gens sont venus proposer de faire un veau d'or à Aaron, il n'a pas trop discuté, hein. Il a fait le veau d'or. Et puis, donc, vous avez aussi l'histoire de Joab. Si vous lisez 2 Samuel, chapitre 23, à partir du verset 8, on cite les vaillants hommes de David et on ne cite pas le grand Joab, le grand guerrier. Il n'est pas cité dans les vaillants hommes de David. En 2 Samuel, chapitre 23, verset 8. Alléluia. Dis avec moi la fidélité. La fidélité. Qui veut être vraiment fidèle? Oh Seigneur, remplis-moi de cette fidélité. Maman, je vous parle, mais Dieu m'a cogné sur ce massage-là. J'ai dit, monsieur, si j'ai pleuré sur ma vie d'abord. J'ai dit, ah Dieu. Dieu m'a appris beaucoup de choses. Je ne comprenais pas pourquoi. Je ne peux pas commencer les autres thèmes, mais il fallait commencer par celui de la fidélité. J'ai dit, Dieu, commence par ça. Et maintenant, le premier commandement, c'est l'amour. On n'a qu'à commencer par l'amour, Seigneur. Il dit, tu sais, l'amour, là, on a beaucoup enseigné aux gens. Mais par qui ils ne sont pas fidèles? Quand j'ai dit d'aimer leur prochain, là, ils discutent avec moi. Je dis, si quelqu'un te tape sur une joue, tends-lui l'autre joue. Quoi, Seigneur? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Si on me tape sur une joue, je tends l'autre joue. Ça, c'est l'infidélité qui est là. Tu n'es pas fidèle. Pourquoi? Le maître te dit, on te tape, tends l'autre joue. Toi, tu discutes. Tu ne comprends pas ce commandement-là. C'est-à-dire, tu as ton propre programme, quoi. S'il dit l'impudicité, tu es d'accord avec lui. Là, vraiment, tu ne commets pas. S'il dit l'adultère, vous êtes collab. Il n'y a pas de problème. Vraiment, là, il a raison. Mais quand il dit, tente l'autre joue. Quand il te dit de faire du bien à celui qui te fait du mal, seras-tu fidèle? Tu as dit, Seigneur, je t'aime. Mais ça, là, seulement, je ne peux pas. Parce qu'il m'a mal parlé, là. Seigneur, je t'aime. Non, non, il faut savoir que je t'aime, mon Jésus. Mais là, là, il faut que je lui dise trois mots. Je lui dis trois mots. Infidèle. On a nos propres programmes. On rentre dans la maison de Dieu. On marche avec Jésus, mais on a nos programmes. On a nos propres programmes. Hein. Nous, on a vu le ciel. On a nos programmes. Dieu a son programme, on a notre programme. Mais comme Dieu ne le voit pas, c'est un peu compliqué. Maintenant, Dieu nous fait travailler avec quelqu'un d'autre. Et puis, il va voir, c'est là qu'on va découvrir si on est fidèle à Dieu. Parce que si on est fidèle à Dieu, on est fidèle à l'autorité qu'il établit sur nous. Donc, l'autorité a son programme. Nous, on est avec lui, mais on a notre programme. Si son programme ne coïncide pas avec notre programme, bye bye. Or, on ne sait pas que nous-mêmes, nous sommes en train de fermer la porte de notre destin. Luc chapitre 16, à partir du verset 10, on va voir qu'il y a trois grands domaines dans lesquels on manifeste la fidélité. Dimanche prochain, on va finir la fidélité. Mais je veux parler, citer rapidement les trois domaines, les deux premiers domaines. On va lire cela ensemble comme une grande famille. Luc chapitre 16, à partir du verset 10, il est dit ceci. On peut lire ensemble, 1, 2 et 3. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes.
Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Amen. Il y a trois choses importantes qui reviennent dans ce passage. Trois domaines d'activité de la fidélité. Trois domaines d'action de la fidélité. Le premier de ces domaines, c'est la fidélité dans les choses, entre guillemets. Donc, vous avez la fidélité dans les choses. Il dit, si tu n'as pas été fidèle dans les moindres choses, il dit, celui qui a été fidèle dans les moindres choses, là aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, là aussi dans les grandes. Donc, c'est ce qu'il appelle les moindres choses, là, dont je veux parler. C'est quoi ces choses? Deuxièmement, il dit encore, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Là, ça parle d'un deuxième domaine. C'est-à-dire, il y a la fidélité dans les choses, il y a la fidélité dans ce qu'on appelle les richesses injustes. Dis avec moi les richesses injustes. Je sais que c'est un passage que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Moi-même, pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi Dieu demande d'être fidèle dans les richesses injustes. C'est ça, c'est bien ce que vous avez lu, frère. Il y a des richesses injustes. La Bible dit, Luc chapitre 16, verset 11, c'est écrit. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et le troisième domaine de fidélité, c'est la fidélité à autrui. Il dit, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Alléluia. Alléluia. Donc, si je n'ai pas été fidèle dans les moindres choses, c'est ce que j'appelle donc les choses. Ou bien encore, si je suis fidèle dans ce que Jésus appelle les moindres choses, on va voir ce que c'est. Il dit, je serai fidèle dans des plus grandes choses. Après, il va donner une autre idée qui découle de la première. Il dit, et donc, si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, vous n'aurez pas les véritables richesses. Ça veut dire le contraire, c'est que le chrétien ou l'enfant de Dieu doit être fidèle dans ce qu'on appelle les moindres choses. Il doit aussi manifester une fidélité dans ce que la Bible appelle les richesses injustes. Il doit développer de la fidélité. Il doit développer de la fidélité aussi dans ce qui appartient à autrui. Il dit, si tu n'as pas été fidèle à ce qui appartient à autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Ces trois domaines de fidélité donnent trois résultats différents. La première des choses, fidélité dans les moindres choses, ça te donne de grandes choses. Fidélité dans les richesses te donne ce que la Bible appelle les vraies richesses. Maintenant, le troisième point, donc Luc 16, 12 maintenant, il dit, si tu n'es pas fidèle à ce qui appartient à autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Donc, le troisième domaine, c'est que tu as toi-même un destin, tu as toi-même quelque chose qui t'appartient. Mais Dieu dit, Jésus dit, si tu n'es pas fidèle à ce qui appartient à autrui, on ne te donnera pas ce qui est à toi. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en introduction. Que Dieu a un principe, ça fait partie de la justice du royaume de Dieu. Dieu ne te donne pas ce qui t'est propre, ton propre destin, ton propre ministère, avant que toi, tu n'aies été fidèle au ministère de quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir la vision de ton destin. Tu peux avoir la vision de ton destin, comme Joseph, qui a vu qu'il allait régner. Et il s'est mis sur le chemin. Mais sur le chemin du règne, ce qui lui appartenait à lui, il y avait le chemin de la fidélité. Alléluia. David se fit pareil. Il a vu Samuel est venu le moindre pour être roi. Mais sur le chemin de la royauté, pour être roi, pour entrer dans son destin, il fallait qu'il soit serviteur de Saül. Alléluia. Alléluia. Tout ça, mes amis, ça fait partie de la justice de Dieu. Dimanche dernier, je vous ai parlé, et dimanche d'avant, je vous ai parlé de la justice de Dieu. Et je vous ai dit ceci. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Et je vous explique ceci en disant, j'ai dit, j'ai vu beaucoup de chrétiens rechercher le royaume de Dieu. Chercher le royaume de Dieu, c'est chercher que Dieu règne dans ta vie. C'est chercher à aller évangéliser, à travailler pour que le règne de Dieu soit manifesté. Et beaucoup d'entre nous y travaillent. Même les infidèles, pas infidèles dans le sens de infidèles contre les commandements, mais infidèles dans le sens de indépendants comme Joab, et Marie et Aaron. Ça veut dire, ce n'est pas des gens qui pêchent, mais ce sont des gens qui sont bons, mais qui, au milieu d'un groupe avec un responsable, ont leur propre programme. C'est un type d'infidèle. Alléluia. Alléluia. Donc, en ce qui concerne la justice du royaume, je vous expliquais que beaucoup de chrétiens donc cherchent le règne. Dieu règne dans ma vie, on se procède, on adore. Mais la Bible n'a pas dit seulement chercher le royaume de Dieu. Il dit chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Il y a beaucoup de prédications, c'est vrai, sur le règne. C'est très important. Mais la Bible dit ceci, qu'un royaume, le trône, dans le livre de Proverbes, est affermi par la justice. Donc, il n'y a pas de manifestation du règne de Dieu sans la justice. C'est un peu comme un pays où il n'y a pas de loi, où il n'y a pas de justice, n'a plus de fondement, c'est du désordre. Le pays n'existe plus. Donc Dieu dit, ne cherchez pas seulement le royaume. Il y a un « et ». Les chrétiens cherchent le royaume. Oh, je t'adore. Oui, règne en moi. Je veux ton règne. Je veux ton règne. Tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. On dit, et sa justice. Et justice, la frère. Non, je vais aller évangéliser la terre entière. Je parlerai de toi. Je veux répandre le royaume de Dieu. C'est bien. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et c'est quoi la justice de Dieu? C'est tout simplement les règles avec lesquelles Dieu fonctionne. Chaque pays a sa justice. Et je vais vous dire ceci. La justice de Dieu est la justice universelle. L'univers entier est régi par cette justice. Si la terre a une autre justice, la Côte d'Ivoire a une autre justice, ça va poser des problèmes à la Côte d'Ivoire. Le monde a une justice, par exemple, qui est une injustice devant le royaume. Je vais vous dire quelque chose, ça va peut-être vous choquer. Est-ce que vous savez que Dieu ne fonctionne pas en mode salarial? La Bible dit, on va rémunérer celui qui sert. Mais Dieu fonctionne en mode semence-moisson. Ça veut dire, quand vous comprenez la justice de Dieu, ça veut dire, soyez des fonctionnaires, c'est bien. Mais sachez que ce ne sont que des tremplins. Un salaire, tu es là. Fixe tous les mois, on te paye. Et puis tu cours derrière mon salaire. Ça n'émane pas directement de la justice de Dieu. La justice de Dieu fonctionne autrement. La justice de Dieu, c'est que Dieu te fait toujours croître. Ça veut dire, quand Dieu va te bénir matériellement, ça ne reste pas statique. Ça évolue toujours. C'est toujours en croissance. Or, le salaire là, toi on te bloque. Ceux qui sont en haut, ils mangent un peu jusqu'à... Et puis à un moment donné, quand tu fais la grève, on te dit 5%. Mais la justice universelle fonctionne comment? La justice universelle que vous payez fonctionne. Donc dans la justice universelle, vous avez toujours l'inflation. Le monde ne fait qu'augmenter. Mes amis, le carburant va toujours monter, les denrées alimentaires vont toujours augmenter. Arrêtez de vous plaindre. Vous ne pouvez pas lutter contre ça. C'est le système, c'est comme ça. Dans la vie, tout grand, tout progresse. La seule façon de pouvoir survivre dans cet univers, c'est que vous-même, vos ressources puissent croître. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, vous allez lutter aujourd'hui contre le prix. On ne marche pas, même on ne va pas au travail. Si on ne descend pas le prix du carburant, mon frère, on va descendre ça pour, si tu veux, une année. L'année prochaine, on va mettre 5 francs. Après, on va mettre encore 5 francs. C'est pourquoi vous vous êtes battu là. Vous allez tout perdre. De toute façon, il n'y a pas longtemps, on a commencé à faire des grèves, si c'était à faire des carburants là. Mais aujourd'hui, on est à combien? Si on veut considérer depuis 5 ans l'augmentation qu'il y a eu. Mes amis, c'est comme ça le monde. Donc, arrêtez de pleurer pour dire la vie est chère. La façon dont tu dois régénérer dans ta vie, c'est que toi-même, tes ressources doivent constamment croître. Donc, l'inflation, mais toi, tu es comme un bateau sur l'inflation. Tu avances. Alléluia! Ça, c'est un élément. Mais la justice de Dieu a ses règles. Ce sont des règles qui régissent l'univers. Ces règles-là veulent que tout le monde ait à manger, tout le monde puisse boire, puisse... Tout le monde, c'est la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, Jésus l'a souvent enseigné. Lorsqu'il dit, si quelqu'un te tape sur une joue, il faut lui tendre l'autre joue. Si quelqu'un fait ceci, fait cela, il enseignait sa justice. Jésus enseignait le royaume. Il disait, le royaume de Dieu est semblable à. Et il enseignait aussi sa justice. Quand il expliquait, il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. C'est une loi. Il parlait de sa justice à lui. Et c'est pourquoi il dit, ne cherchez pas seulement mon royaume, mais ma justice. La justice de Dieu est basée sur les vertus. La fidélité, l'amour, la patience, la bonté, la douceur. Ce n'est pas simplement la justice de Dieu. En fait, c'est le fondement de la justice de Dieu. Dieu a une justice patiente. Dieu est patient. Donc, la patience est une norme universelle. Si vous n'êtes pas patient, vous n'obtiendrez rien de bon sur la terre. Tout prend le temps. Les meilleurs fruits qui coûtent les plus chers et qui rapportent plus et qui vous font croître prennent le temps de pousser. Vrai ou faux? Attends, tout le monde court derrière Véa, mais Véa, ça fait au moins 7 ans, frère. Tout ça, il faut être patient. Si tu vas plus vite, tu vas avoir des problèmes. Ok? Donc, la patience est une vertu universelle. Il faut composer avec elle. Si vous vous rebellez contre la patience, vous allez créer d'autres problèmes. Vous allez créer des maladies. Vous allez créer des dysfonctionnements. Le monde est devenu impatient. Dans les entreprises, c'est du gagné-allé. Oh, en Occident. Et ça a mis leurs employés dans le stress. Et les gens ne font que se suicider. Ils ont effreint une justice universelle qui est la patience. Et quand l'homme effraie la justice, comme lui-même il est dans l'univers, ça crée en lui un dysfonctionnement. Il commence à connaître le stress, la dépression et les maladies diverses. La justice de Dieu est valable pour toutes les nations parce que c'est la justice du royaume. Elle est universelle. Alléluia. Et dans cette justice-là, il y a la fidélité. Donc que ça vous plaise ou pas, si vous ratez ce domaine de la fidélité, vous ratez le but de votre vie. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Amen. C'est pourquoi il faut rechercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et quand vous dites vous cherchez la justice de Dieu, ça veut dire vous recherchez la fidélité. Alléluia. Dimanche prochain. Amen. On va parler, maintenant on va rentrer dans les détails de la fidélité. La fidélité dans les moindres choses. Donc, Dieu veut que tu aies de grandes choses. J'ai dit tout à l'heure que tout doit croître. Ok? Tout doit croître. Si Dieu te donne 100 000 francs comme salaire, et à un moment donné, tu travailles pour autrui. Donc, à un moment donné, tu reçois un salaire fixe. Ou bien encore, même tu n'en reçois même pas, comme Joseph chez Potiphar. On ne le payait pas. Ok? Tu dois déployer ce qu'on appelle pour que la justice universelle soit fonctionnelle, tu dois déployer ce qu'on appelle la fidélité dans les moindres choses. Si tu n'exerces pas cela, il t'est impossible de connaître une croissance. La croissance va venir, c'est pas parce que tu vas parler, tu vas aller faire de la grève. On ne veut plus, on ne veut plus. Patron, si tu ne me payes pas, si tu n'augmentes pas, regarde la vie. Le patron va te donner le surplus, mais je t'assure, il va trouver un moyen de te couper ça. Pendant que tu as un ami bonus là, après on vient, je suis obligé. Une assurance pour tout le monde. Quelle assurance? Je ne veux pas assurance. On dit, mon frère, tu as des dents forcées. Le petit truc qu'on t'a mis là, on enlève encore. Vous voyez? Donc, dis à un voisin, laisse affaire des salaires. Non, non. Ce que je veux t'expliquer. Il y a un moment donné, même si tu travailles et qu'on te donne un salaire, c'est bien. Mais il faut savoir que la justice divine a un principe. C'est que le petit devient grand. La Bible dit que le royaume de Dieu est semblable à une graine de sénévé. Elle est petite, elle finit forcément grande. Tout ce qui ne grandit pas dans l'univers est malade. Ok. Un enfant qui naît, s'il atteint un mètre et puis il ne grandit plus, il y a un problème. Vrai ou faux? Donc tout doit croître. Ce qui ne progresse pas est anormal. Ça ne fait pas partie de la justice de Dieu. Hein? Tu ne peux avoir que ce qui est grand que dans la fidélité aux moindres choses. Celui qui est fidèle dans les moindres choses sera aussi dans les grandes. Maintenant, la Bible dit ceci, on va l'étudier, que pour pouvoir aider les nations, faire sortir les gens de la pauvreté, construire des hôpitaux, il nous faut bien sûr des moyens, il nous faut bien sûr des richesses, c'est pas ça? Ok, il faut que nous soyons riches, il faut que nous ayons des richesses. Alors, Dieu va parler maintenant, il parle de la fidélité dans les richesses, ce qu'il appelle les richesses injustes. Il dit, il y a des véritables richesses, la véritable richesse, c'est la richesse qui permet à tout le monde de manger. La véritable richesse, c'est un peu ce que les disciples ont déployé. En amenant 5 pains, 2 poissons, ils ont eu suffisamment de pain pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et c'est ce à quoi vous êtes appelés. Dieu vous appelle quelque part à nourrir beaucoup de gens. J'ai dit que vous étiez des missionnaires. Amen. Vous devez aider. Plusieurs ici doivent construire des hôpitaux, plusieurs, des centres hospitaliers, des centres de santé. Mais comment est-ce que, parce que dans le livre d'Ésaïe chapitre 61, la Bible dit que les richesses des nations vont revenir vers les fils du royaume. Et on va lire cela dimanche prochain. Afin que toutes les îles espèrent en l'Éternel. Parce que c'est une injustice que les richesses soient gérées par ceux qui ne marchent pas avec le créateur de ces richesses. Est-ce que vous me comprenez? C'est une injustice que l'esclave soit sur le cheval tandis que le fils est à pied. Ce n'est pas normal. C'est une injustice que celui qui insulte Dieu puissent jouir des richesses de la terre qui ont été créées par le Créateur. C'est une injustice. Mais, pour que cette richesse-là vienne à toi, il faut être fidèle dans les richesses injustes pour avoir les véritables. Ça, on va expliquer encore dimanche prochain. Amen. Il y a une attitude que tu dois avoir, il y a un comportement. L'Église a refusé cette attitude. Ils sont païens, ils sont païens. Attention, si tu n'es pas fidèle aux richesses qui sont dans la main des injustes, toi, tu n'auras pas les véritables. Alléluia. Dis à un voisin, dimanche. Donc, on va t'expliquer comment le transfert va se faire. Et le troisième, toi-même, ton propre destin se trouve dans la fidélité à ce qui appartient à autrui. Tout ça, ça fait partie de la justice divine. Que Dieu vous bénisse. On va baisser les têtes, on va parler au Seigneur. Alléluia. Amen. Parlons à Dieu. Dis Seigneur, apprends-moi à être fidèle. Pardonne-moi l'infidélité. Mes amis, moi-même je me suis mis dans ma chambre, je me suis mis à genoux, j'ai pleuré sur mon état. Quand Dieu a ouvert mes yeux pour comprendre la fidélité dans les trois aspects, la fidélité, j'ai vu en moi tellement de choses. Et vraiment, si l'Éternel t'a parlé quelque part, hein, ne t'enorgueille pas, faut pas frimer, sois humble. Parle-lui simplement. S'il y a des choses que tu n'as pas encore comprises, demande-lui, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je saisisse cette parole. Il semble qu'elle est vraiment importante pour ma vie, importante pour mon âme, mais je ne la saisis pas entièrement. Donne-moi de la comprendre, Seigneur, afin d'obéir à ta voix, afin d'obéir à ta parole. Alléluia. Seigneur, déploie ta grâce dans nos vies. Apprends-nous la fidélité. Tu dis, beaucoup de personnes proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. Aujourd'hui, nous comprenons, c'est vrai, nous pouvons être excellents dans les domaines. Mais ce que tu attends des dispensateurs, c'est la fidélité. Ce que tu recherches pour choisir un homme, une femme de Dieu, c'est d'abord la fidélité. C'est pas la compétence, c'est pas le savoir-faire. Pardonne-nous, Seigneur, de nous être appesantis sur notre savoir-faire et d'avoir refusé la fidélité pour diverses raisons. Apprends-nous la fidélité en ce jour. Détruis en nous tout esprit de rébellion, tout esprit d'insoumission, tout orgueil qui nous amène à refuser la fidélité, Seigneur. Brise en nous l'orgueil, rends-nous un. Afin de te servir. C'est vrai, tu as ton royaume et tu as ta justice. Ta justice n'est pas celle de ce monde. Et tu nous dis que si nous recherchons ta justice et ton royaume, toutes choses nous seront données par-dessus tout. Nous avons souvent cherché ton royaume, mais nous avons refusé ta justice parce que nous ne comprenons pas le bien fondé de cette justice. Parce que nous ne comprenons pas le bien fondé de tes propos. Or, ta justice, elle est universelle. Elle régit l'univers entier. Apprends-nous à marcher dans ta justice. À toi la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur si Dieu nous a parlé ce matin.
Si ce message vous a édifié, procurez-vous d'autres messages sur des thèmes tout aussi enrichissants. Au revoir et à un autre message.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.